France Inter, le 18-20.
Hier, le Premier ministre a donc parlé pour contrer les manifestations parfois brutales de ces dernières semaines, de faire un fichier des casseurs et de considérer comme un délit le port de la cagoule. Bien. Mais au fond, le vrai problème, c'est trouver une réponse à ces rendez-vous du samedi des Gilets jaunes qui débordent régulièrement des deux côtés. C'est exactement ce qu'on a vu samedi dernier. Et la vraie question, c'est donc, mais c'est quoi le maintien de l'ordre aujourd'hui? Quelles méthodologies doivent être adoptées? Est-ce qu'il faut tout revoir de ce qu'on sait faire en manifestation pour qu'elle reste calme, les méthodes, le type d'armes, la formation aussi des policiers, les dialogues avec les manifestants. Parce qu'en face, il y a des hommes, plus souvent, qui refusent l'idée d'un cortège qui bouge, qui se divise en groupes et qui vont au contact. Bref, dans la rue, tout a changé au point que les doctrines passées deviennent peut-être des doctrines dépassées. Et on a peur, chaque fois, des deux côtés, encore une fois, d'un côté comme l'autre du cortège, du premier mort. Les questions qui montent parlent de violence légitime. Légitime parfois, mais attendez, légitime de la part de qui exactement? On l'entend côté manifestant, mais on a aussi entendu un ancien ministre dire mais qu'ils fassent usage de leur arme une bonne fois. Tout ça est évidemment tout autant irresponsable. Du maintien de l'ordre en démocratie, quand les situations se tendent, parlons-en ensemble et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Et le premier à intervenir sur l'antenne de France Inter ce soir, c'est vous, Martin. Vous êtes à Besançon. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute.
Merci de prendre mon appel. Voilà, c'était simplement pour dire que moi, je ne suis pas gilet jaune. J'ai jamais participé au mouvement d'aucune manière. Il m'intéresse beaucoup. Hein, je le suis beaucoup depuis le début. Voilà. Et aujourd'hui, je me posais la question de savoir comment on voulait prétendre maintenir l'ordre en agissant comme les policiers le font. Quoi. Dès qu'il y a une masse de gens dans la rue qui veulent crier leur colère, voilà, on balance des lacrymos. Et puis il y a des images qu'on peut pas nier. Quoi. Donc il y a ces violences. Il y a les autres, l'image de ce policier là, qui va se mettre à frapper un homme alors que clairement il y avait aucune raison de le faire. Enfin, même peu importe ce qu'il ait fait avant, s'il a fait des choses condamnables avant, ben voilà, ils sont en mesure de l'emmener, de juger, etc. Mais pas de réagir comme ça, je vois pas. Enfin, comment on peut prétendre vouloir garantir l'ordre en voyant ce qu'on voit, quoi. Alors effectivement, il y a ces deux types de violences. Ce mec qui frappe le pont sur le pont là, et puis les policiers qui agissent. Moi, j'en cautionne aucune des deux. Vraiment, mais vraiment, je les rejette les deux. Mais les policiers, elles me mettent mille fois plus en colère que celle du type sur la passerelle, quoi. Vraiment, c'est sans commune mesure.
Merci beaucoup, Martin, pour cette entrée en matière. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des questions comme la vôtre. Et j'imagine qu'il y en aura d'autres au téléphone sonne. Mais c'est vrai que ça revient beaucoup pour y répondre, pour dialoguer ensemble jusqu'à 20h. Stanislas Godon est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du syndicat Alliance Police. Et puis Sébastien Rocher est avec nous aussi. Bonsoir, monsieur Rocher.
Bonsoir.
En duplex depuis France Bleu à Lyon. On remercie nos amis à Lyon. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la police. Et vous avez écrit notamment de la police en démocratie. C'est publié chez Grasset. C'était en 2016. Je vais vous poser la question à tous les deux parce qu'effectivement ça revient et j'ai voulu vraiment prendre soin dans l'introduction de ce téléphone sonne qu'on parlait vraiment des deux côtés. Stanislas Godon, est-ce que vous avez vous le sentiment côté police que il y a disproportion lorsqu'on parle de violence ou est-ce que oui, vous êtes aussi vous également prêt à dire soyons tout aussi sévères vis-à-vis des policiers lorsque on est dans des situations comme celles qu'on a pu voir à Toulon qu'on l'est avec ce boxeur sur le pont par exemple.
Alors on va essayer de remettre les choses un peu dans leur contexte. Allez-y. Quand même. Tout d'abord, les policiers subissent des violences depuis des années. C'est pas nouveau, ça date pas que des gilets jaunes. Ça a été le cas notamment dans des quartiers un peu compliqués. Ça a été le cas notamment pendant les manifestations contre la loi travail. Je rappelle que nous avions eu 600 blessés dans nos rangs. C'est le cas à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, puisque le bilan des manifestations des gilets jaunes, c'est 10 morts, 3000 blessés, dont 1000 parmi les forces de sécurité. Et là, on parle de violence. Après, quand on parle des policiers, alors lorsqu'ils font...
Je voudrais juste rectifier une chose pendant que je vous entends parler, parce que je disais on attend avec crainte le premier mort tout à l'heure. Je n'ai pas oublié, comme vous le dites, qu'il y en avait eu, simplement pas en situation de manifestation.
Pas en situation de manifestation.
Voilà, c'était juste ce que je voulais...
En situation revendicative sur des ronds-points. Malheureusement, absolument. Des accidents de la route dramatiques, absolument. Et ça pose aussi le problème de la déclaration de manifestation notamment.
Alors justement, mais très sincèrement, parce que sur le type de manifestation en effet, qui ont beaucoup changé, vous avez parlé de la loi travail, mais il y en a eu d'autres, il y a eu des épisodes de ZAD, il y a des épisodes comme ça qui sont très différents de ce qu'on a pu voir précédemment, mais sincèrement, là, dans l'épisode, est-ce que vous dites chez Alliance, ok, prenons les violences de part et d'autre de la même manière. Ce sont des erreurs d'un côté comme de l'autre.
Alors déjà, je réfute le terme de violence policière. Pourquoi ? Lorsqu'on parle de violence policière, souvent, on l'attribue comme ça et on est déjà dans le système accusatoire. Chez les policiers, notamment en maintien de l'ordre, il y a l'usage de la force. Soit il est légitime, soit il ne l'est pas. Et dans les rangs des forces de sécurité, il faut savoir que nous sommes extrêmement contrôlés. Il y a l'IGPN, l'IGGN pour les gendarmes, nous avons les autorités administratives, judiciaires, nous avons l'autorité hiérarchique, et puis nous avons effectivement la vidéo, puisque maintenant ça fait partie aussi de l'arsenal. Donc quand il y a un manquement dans nos rangs, il y a enquête et il y a sanctions, et des sanctions très sévères. Et d'ailleurs, ça
mais
posera
on peut
la
quand même appeler sa violence policière, du coup, pourquoi est-ce qu'on l'appellerait pas comme ça lorsque c'est comme vous dites, quand il est avéré grâce à une vidéo que oui, il y a violence policière.
Non, mais la violence,
pourquoi on l'appellerait différemment?
La violence, quand elle est constituée, vous savez qu'il faut, pour une infraction, il faut trois éléments. Élément légal, matériel et moral. Lorsque vous parlez de violence d'entrée, ça veut dire que déjà vous êtes dans l'infraction, alors que vous ne savez pas. Et souvent, ça a été le cas, pardon de le rappeler, lorsqu'on extrait des vidéos et qu'on ne connaît pas le début, le milieu et la fin de l'histoire, c'est souvent très compliqué. C'est pour ça que nous sommes toujours très prudents. Lorsqu'il y a des vidéos, il y a des enquêtes, il y a des extractions et il y a des conclusions et il y a des sanctions. Et s'il y avait autant de sanctions pénales que de sanctions administratives pour les policiers lorsqu'il y a des manquements, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas beaucoup d'individus dangereux dans les manifestations.
Sébastien Rocher, est-ce que vous, de ce que vous regardez avec votre connaissance, vous avez le sentiment qu'il y a la disproportion que sentent nos auditeurs entre ce que l'on dit d'un manifestant lorsqu'il frappe et ce que l'on dit d'un policier lorsqu'il frappe? Ou pas ?
Alors oui, bon, il y a eu énormément d'usages de violence par la police depuis deux mois, dans un contexte qui est particulier, mais ce beaucoup de violence, il est à contextualiser, c'est-à-dire il est au niveau des violences qu'on constate de la part des policiers en Europe occidentale. Donc on ne peut pas comparer ça, notamment avec la violence des policiers que vous allez trouver au Brésil. Vous avez des sortes d'armées policières qui interviennent, par exemple, dans les favelas et qui exécutent les gens avec des exécutions extrajudiciaires ou des morts au cours des manifestations comme au Venezuela. Donc on n'est pas dans ce contexte de violence-là. Donc c'est une violence non mortelle. Mais malgré tout, cette violence policière, elle existe et elle pose un problème évidemment très important et elle est insuffisamment contrôlée. Alors là, je dirais le contraire de ce qu'a dit l'interlocuteur précédent. Elle est insuffisamment contrôlée. Pourquoi ? Il y a très peu de contrôle en France parce qu'il y a très peu de transparence. Vous n'avez aucun chiffre sur les violences commises par les policiers et les mesures disciplinaires qui ont été prises. Il n'y a rien de communiqué. Ce qu'on sait aujourd'hui, on le sait à travers les vidéos. Et c'est la grande nouveauté depuis 10 ans. C'est ce qu'a permis de montrer de la violence policière les citoyens eux-mêmes. Et c'est ça la révolution. Je vais vous donner un dernier exemple de la faiblesse du contrôle. Aujourd'hui, il n'y a pas de traçabilité de l'usage des armes à létalité réduite, comme les lanceurs de balles de défense. On ne sait pas qui a tiré quel projectile. Et il n'y a pas non plus de possibilité d'identifier les agents. Ils ne portent pas de numéros suffisamment gros et visibles. Ce sont des pratiques qu'on va trouver en Allemagne, qu'on va trouver dans des pays même d'Amérique latine comme en Colombie. Donc la France est en retard du point de vue du contrôle de la violence par les policiers et du contrôle en général. Elle n'est pas du tout en avance. C'est pas qu'il n'y en a pas. Il y a des formes de contrôle, ça a été dit tout à l'heure. Ils existent, mais ils sont insuffisants.
Stanislas Godon, est-ce que vous accepteriez qu'il y ait un autre contrôle similaire à celui, par exemple, des Allemands dont parlait Sébastien Rocher, afin, au fond, de couper court à toute forme de polémique de ce genre? Lorsque les policiers américains ont commencé à avoir des caméras sur la ceinture, par exemple, c'était autant pour protéger les gens en face que pour se protéger eux-mêmes des accusations. Donc, pourquoi pas imaginer plus de contrôle au fond?
Alors un sixième contrôle, vous voulez parler, puisqu'il y en a déjà cinq, donc ça commence à être un peu compliqué. Il faut savoir que la vidéo, elle existe déjà dans nos rangs, puisque les compagnies républicaines de sécurité sont équipées notamment d'une caméra et ils peuvent filmer aussi les interventions. D'autre part, je rappellerai juste à monsieur que il faut que vous vous renseigniez un peu mieux, puisque en fait, depuis l'année 2018, en fait, les blessés lors des actions de police sont maintenant référencés et comptabilisés notamment par l'IGPN. Alors, c'est vous vous dire si quand même le système évolue dans le cadre de la transparence. Et puis, je réfute encore ce terme de violence parce que l'usage de la force en maintien de l'ordre, il faut aussi le conceptualiser. Vous l'avez dit, à quoi on a assisté depuis un mois et demi, à un climat quasiment insurrectionnel. Est-ce que vous voulez que je vous raconte que des collègues ont eu leur matériel de protection qui a fondu sous le coup des jets d'acide qui ont été balancés sur leur matériel de protection, notamment vestimentaire. Est-ce que vous voulez que je vous parle des cocktails Molotov? On a un collègue à Bordeaux qui a commencé à brûler et il doit en fait sa vie simplement grâce à la tenue qui est inifugée et qui peut le protéger. Donc le concept à l'heure actuelle du maintien de l'ordre, c'est un concept qui quand même a fait ses preuves en matière de blessés. Et notamment, on l'a vu lorsqu'on a changé de doctrine. C'est-à-dire que lorsqu'on est passé d'une maintien de l'ordre statique, où ça a été quasiment l'insurrection en plein Paris, et on est passé à de la prise...
C'était le premier samedi autour de l'Arc de Triomphe.
Voilà. Ouais. Et le samedi d'après, il y avait eu des instructions pour aller au contact, procéder à des interpellations. Et à quoi on a assisté? Il y avait moins de blessés.
Là-dessus, Sébastien Rocher, avant qu'on retourne au standard, est-ce que vous avez le sentiment, vous, en observant que, précisément, effectivement, si les méthodologies des policiers la changent d'un samedi à l'autre, est-ce que ça veut dire aussi que les manifestations ne sont plus ce qu'elles étaient? Je pense à celles sur la loi travail, effectivement, je pense à certains épisodes de Nuit debout, je pense à ce qui a pu se passer, notamment comme une ville comme Marseille au moment de l'Euro de football, je pense à ce qui peut se passer, notamment dans la ZAD. Est-ce que cette doctrine, qui est effectivement de ne pas aller au contact entre forces de l'ordre et manifestants, doit être complètement revue parce que les manifestations changent ou pas?
Bah oui, les doctrines doivent évoluer, bien sûr. Il y a trois grands types de situations de maintien de l'ordre. En fait, le maintien de l'ordre, d'ailleurs, c'est un mauvais terme. En fait, c'est de gestion des foules. Hein. Mm-hmm. Parce que l'ordre public, ça inclut les droits. La définition de l'ordre public, c'est une situation dans laquelle les droits des individus sont protégés, y compris les droits constitutionnels et y compris les droits, d'ailleurs, de manifester. Hein. Mais il y a trois situations de maintien de l'ordre. Il y a une situation qu'on va trouver dans les cortège classique, là où on a un organisateur qui va suivre un itinéraire et ce cortège va être encadré par la police et la gendarmerie. Ça, c'est le système classique. Donc, en fait, on va confiner le cortège dans une partie d'un espace de la ville. On va souvent l'empêcher d'approcher de certains lieux. Il y a une deuxième configuration, c'est la gestion des foules en banlieue, où là, on envoie des forces qui vont occuper un territoire qui est celui où vivent les personnes. Et donc là, c'est une difficulté particulière, parce qu'on peut pas faire sortir les gens, on peut pas expulser les gens du territoire, parce qu'en fait, ils sont chez eux. On fait le maintien de l'ordre au pied de chez eux. Et puis, on a la troisième situation, qui est maintenant quand même relativement bien connue, dans laquelle on a un mix, en fait, et c'est ce qu'on voit avec les gilets jaunes. On a des formes de personnes qui protestent, avec par moments des affrontements avec les policiers, soit causés par la mauvaise gestion de la foule par la police, soit causés par des groupes, par un certain nombre de personnes dans les groupes. Et puis, à ce cortège vient s'additionner des petits groupes qui, eux, sont décidés pour des raisons politiques, par exemple, à en découdre avec la police, ou bien des personnes qui, en fin de cortège en général, profitent de la dispersion pour aller piller un certain nombre de magasins. Donc, on a un système hybride. Voilà. Et donc, forcément, dans ces trois situations, on a forcément trois types de maintien de l'ordre qui vont être mis en place. Donc il n'y a pas une seule façon de le faire. Mais il faut se souvenir que le maintien de l'ordre, c'est d'abord le résultant d'une décision politique, c'est-à-dire c'est le pouvoir qui va estimer, on va dire, le niveau des troubles et qui va prendre des mesures, qui va donner des instructions aux policiers. Et donc le maintien de l'ordre, c'est d'abord en fait un outil pour permettre le dialogue. C'est d'abord un outil du dialogue, simplement contenir la foule pendant qu'on fait des progrès au plan politique. Et le maintien d'ordre ne remplace pas la gestion politique des troubles sociaux.
Et précisément, je voudrais qu'on entende Stéphane là-dessus. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, Sébastien Rocher m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une gestion sécuritaire de problématiques d'ordre public, de gestion de l'ordre public et de rétablissement de l'ordre public qu'on confie aux policiers, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de décision politique à un moment donné, et celles qui ont été prises sont vraisemblablement pas à la hauteur puisque le mouvement continue, et là je mets à part bien évidemment les casseurs et tous ceux qui font que ce mouvement déborde à un moment donné, mais en tout cas, on ne peut pas déléguer à la police la gestion de l'ordre public et du rétablissement de l'ordre public s'il n'y a pas derrière des décisions politiques et dire en plus demain on va créer des interdictions administratives de manifester, créer un fichier, on va encore déléguer aux policiers, ce qui devrait être d'ailleurs délégué à des magistrats, mais délégué à des policiers la possibilité d'interdire à des gens de manifester, la possibilité de les ficher, ce qui va encore occasionner le fait de, pour un certain nombre de personnes qui souhaitent manifester, de montrer du doigt l'institution police en disant « Regardez, c'est eux qui sont le bras armé du pouvoir pour nous empêcher de réclamer ce qu'on souhaite. » Aujourd'hui, il faut des décisions politiques qui soient réellement à la hauteur des attentes. Et encore une fois, je mets à part, bien évidemment, les casseurs auxquels nos collègues font face difficilement et à qui il faut rendre hommage parce qu'ils sont vraiment dans des... nos collègues CRS, nos collègues gendarmes mobiles, les collègues des compagnies de sécurité qui sont en réelle difficulté vis-à-vis de ces casseurs.
Merci beaucoup Stéphane pour ce témoignage parce que c'est important ce que vous dites. Un mot Stanislas Gaudron, puis on va écouter Pierrot qui nous attend à Toulouse et qui est policier lui aussi. Est-ce que vous avez le sentiment parfois, vous, les policiers, effectivement, de faire les frais d'une politique attentiste au fond, d'une politique même sécuritaire? Là, par exemple, on dit aux gens, vous n'irez plus dans les manifs, vous ne porterez pas de cagoule. C'est une réponse liée directement à ce qui se passe dans la rue.
Alors c'est pas tout à fait.
Est-ce que ça va vous aider?
Bien sûr que ça va nous aider, okay. Parce que c'est pas tout à fait ce qui est dit. Hein. C'est pas interdiction du droit de manifester.
Non, pas du tout.
C'est absolument pas le cas.
Non.
Le fichier, les arrêtés d'interdiction.
Ça marche comme pour les hooligans à une période.
Exactement.
Ça avait fonctionné pour les hooligans.
Ça a fonctionné.
Et pas de cagoule, c'est déjà interdit les cagoules, mais c'est pas un délit, ça devient un délit.
Exactement. Voilà.
Ça vous aide, ça.
Et bien sûr, ça nous donne un arsenal, des outils juridiques qui nous permettent notamment d'interpeller des individus qui, je le rappelle, ne sont pas des manifestants, ce sont avant tout des personnes qui ont été identifiées comme étant soit des casseurs, soit en relation avec des groupes ultra, soit qui ont fait l'objet, notamment de condamnations pour des violences ou des détériorations. Et c'est vous dire à quel point c'est important aussi pour les manifestants. Parce que si on écarte ces individus, du coup, ils ne sèmeront pas le trouble lors des parcours. Et là, je reviens aussi sur cette problématique, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, depuis un mois et demi, on assiste à quoi ? À pratiquement aucune manifestation déclarée. Et pour nous, par contre, ça, c'est très compliqué. Parce que lorsqu'on a une manifestation déclarée, on l'a vu samedi, la manifestation qui avait été déclarée et signée sur les Champs-Élysées s'est très bien passée. Il y avait un service d'ordre constitué, et d'ailleurs, il n'y a pas eu de débordement. La deuxième manifestation qui avait été déclarée mais non signée, on a eu de cesse avec des groupes d'individus ultra-radicaux qui voulait sortir du parcours et pire, qui voulait accéder au pont, ce qui est un non-sens puisque c'est extrêmement dangereux pour les personnes d'accéder à un pont, notamment au-dessus de la Seine.
Pierrot, à Toulouse, pour enchaîner. Bonsoir Pierrot.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Merci de prendre mon appel, je suis pas du tout à Toulouse, c'est à Ajaccio.
Ah pardon, autant pour moi, il y a marqué Toulouse, mais je vous en prie.
Je vous en prie. Moi c'est plus pour un témoignage, vous allez m'en vouloir, Mme Sintès. Je voulais témoigner d'une infamie qui se passe en Méditerranée aujourd'hui. Ce soir, des gens ont passé leur 19e nuit sur un bateau. Et c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. La Méditerranée devient un cimetière. Alors oui, vous me direz, ça n'a rien à voir avec votre sujet.
Non, pas trop. Mais on aura l'occasion d'en reparler pour tout vous dire. On parlera de ça un jour dans le monde demain. Donc pourquoi pas, Pierrot, je ne veux pas vous empêcher de parler. En même temps, c'est pas le plus efficace, mais allez-y.
Une pétition est en cours aujourd'hui pour ouvrir un port en Corse. Et je pense que c'est très important. Très très important parce que ces gens-là crèvent en mer.
Voilà, ok. Et ce sont des problématiques qu'on connaît, qu'on traite le plus souvent possible sur France Inter, qu'on retraitera dans un jour dans le monde. Allez, je voudrais qu'on enchaîne. On va aller à Nantes retrouver Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien moi, j'insiste vraiment sur. Moi, je suis pas gilet jaune, mais pour autant, on n'embête pas. Sauf quand il n'y a aucun service d'ordre au sein même de leur regroupement. La semaine dernière, j'ai été obligée d'intervenir pour qu'une épicerie dans ma rue ne soit pas vandalisée. Alors, des gilets jaunes y étaient allés avant, ils ont payé leur bouteille d'eau, leur bière, pas de souci. Quand ils sont ressortis, d'autres personnes, y compris portant un gilet jaune, sont arrivées pour piller l'épicerie. Et je pense que un service d'ordre sans des gilets jaunes est indispensable parce que ce n'est pas aux voisins d'intervenir pour que l'épicerie ne soit pas pillée, vandalisée. Voilà. Moi, je me suis pas sentie à ma place, alors qu'évidemment, j'y suis allée. Mais c'est pas à nous de le faire, c'est pas aux voisins.
Merci beaucoup.
C'est aux Gilets jaunes de s'organiser.
Merci, Elisabeth. Sébastien Rocher, c'est ce qu'on disait sur les différentes manifestations, types de manifestations aujourd'hui. C'est bien peut-être l'un des problèmes d'ailleurs. Dans une manifestation classique, on demande une autorisation, on va à un endroit, le parcours, il est prévu et il y a un service d'ordre. C'est évidemment tout ce que ne veulent pas, au fond, ces types de manifestants-là, non?
Oui, c'est pas du tout la logique de ce qui se passe effectivement actuellement avec les Gilets jaunes, et c'est ça qui surprend. Mais je crois qu'à la base, il y a quand même une colère profonde et un mécontentement des gens, et c'est cette colère et ce mécontentement qui va ensuite, au cours des protestations, qui va ensuite occasionner un certain nombre de troubles. Mmh. Voilà, et des comportements que les gens n'auraient pas en situation normale. Mais c'est d'abord cette agrégation de la colère qui est là au départ. Donc, il faut quand même la considérer, encore une fois. C'est pas juste une question de police, c'est pas une question d'effectifs policiers ou d'avoir des lanceurs de balles de défense qui tirent plus de balles. C'est d'abord une question sociale. Et la résolution, elle passe par une réflexion sur l'action sociale, sur les compromis politiques. On peut pas demander aux gens simplement d'être gentiment protestataires quand ils sont bloqués. En tout cas, on peut leur demander, mais on voit que ça ne marche pas. Quand ils sont dans des situations de blocage, de pauvreté ou proche de la pauvreté, les gens sont extrêmement en colère. On peut pas lui dire d'être en colère gentiment. C'est pas possible. Ça, c'est une vision juridique. Mais pratiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pas comme ça que les mobilisations sociales se déroulent.
Stanislas Godon, est-ce que vous avez le sentiment parfois que les policiers font les frais d'une situation politique qui est très floue en ce moment, en fait?
Vous savez, les policiers, ils répondent d'abord présents parce qu'ils obéissent aux ordres et puis ils sont là pour rétablir l'ordre républicain et surtout assurer la sécurité des manifestants. Par contre, je m'inscris en faux à ce que vous dites, monsieur, parce que là, vous avez l'air de sous-entendre qu'en fait, les policiers utiliseraient des armes intermédiaires comme ça, d'initiative, sans qu'il y ait eu avant, notamment une attaque, sans qu'il y ait eu avant, notamment des sommations pour appeler à la dispersion ou à ce que les personnes quittent, notamment lorsque ça devient extrêmement violent sur des situations à risque, notamment. Ce n'est pas le cas. C'est très très encadré, le maintien de l'ordre. Il y a une autorité préfectorale la plupart du temps qui coordonne en fait les actions. Il y a une autorité civile. Et puis il y a aussi un commandement hiérarchique au sein notamment des compagnies républicaines de sécurité ou des escadrons de gendarmerie. Donc tout ceci n'est pas laissé à volo. Tout ceci est quand même très encadré. Après, je voudrais associer quand même juste une réflexion sur le nouveau maintien de l'ordre. Parce que vous disiez que le maintien de l'ordre n'était pas approprié. Si, parce qu'il faut distinguer le maintien de l'ordre des violences, de la gestion des violences urbaines. Et là, on a des unités qui sont spécialisées dans ces deux domaines-là. Et ce qui a évolué, notamment dans la gestion des gilets jaunes, notamment sur la plaque parisienne, c'est qu'on a associé ces deux unités spécialisées afin d'avoir parfois du maintien de l'ordre lourd et des unités plus légères qui peuvent aller au contact, procéder à des interpellations et qui d'ailleurs ont montré leur efficacité.
Et ça veut dire que vous, ce que je veux dire, c'est que vous savez faire, Stanislas Godon. On est formé quand on est policier à ce genre de situation, y compris des situations qui peuvent être très violentes comme en ce moment.
Alors les unités sont formées puisque lors des stages de formation, on les met aussi à rude épreuve, mais on leur apprend aussi à manœuvrer parfois sur des situations qui sont graduées. L'usage de la force est gradué. Vous avez parfois des situations où seuls les gaz lacrymogènes sont suffisants. Il y a un écart qui est fait, et puis dans ce cas-là, vous n'avez pas de contact. Parfois vous avez affaire à des individus extrêmement violents, des ultras, qui veulent aller au contact, comme on l'a vu ces derniers temps. Et attention, je ne fais pas de généralité par contre, contrairement à certains. Il y a des gilets jaunes qui viennent tout à fait pacifiquement, il faut bien le redire. Et puis il y en a d'autres qui se laissent entraîner par parfois des ultras, qui sont des professionnels de la casse et qui savent aussi utiliser des boucliers, comme boucliers humains, les gilets jaunes notamment.
Olivier est à Nantes. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
Je vous appelle, je suis
assez habitué aux manifs à Nantes, en particulier Notre-Dame-des-Landes et puis bien évidemment les Gilets jaunes en ce moment. Et je voulais revenir sur l'usage du flashball et des grenades de désencerclement ou assourdissantes. Je trouve ces dispositifs très dangereux, ils sont létaux, ça a été démontré je crois, sans compter le nombre de dieux perdus suite à des tirs de flashball. Et je voulais savoir qui décidait de l'usage de ces dispositifs, si c'était déjà l'agent lui-même ou si ça venait de la hiérarchie. Et si c'était pas possible de s'en passer un peu plus, je trouve que le recours à ces dispositifs est vraiment plus que récurrent dans les manifs.
Merci beaucoup Olivier Stanislas Godon. Je voudrais ajouter une autre question sur franceinter.fr. Je ne retrouve pas le prénom de la personne, c'est pas grave. Quid du niveau d'armement des forces de l'ordre par rapport aux autres pays, justement? Pourquoi autant d'armes, certaines létales en Allemagne? Est-ce que les forces de l'ordre ne sont plus ou moins armées? On sait que notamment en Angleterre, il y a moins d'armes. D'abord sur ce que dit Olivier, qui décide à un moment? La fameuse gradation, elle se passe décidée par qui et à quel moment?
Alors normalement, c'est l'autorité en salle, puisque par exemple, lorsqu'on déclenche les lanceurs d'eau, qui sont d'une efficacité qui d'ailleurs est très très importante, et on regrette, nous, que ça n'ait pas été utilisé, notamment pendant les manifestations contre la loi travail, parce que ça aurait évité plus de prises de contact, notamment entre les forces de sécurité et puis les casseurs professionnels. Pourquoi il y a plusieurs armes? Parce que d'abord, ce sont des armes intermédiaires et non létales, et ça, c'est important de le redire. Les policiers n'utilisent pas leurs armes de service lorsqu'il y a des manifestations, et heureusement, et tout le monde en sera d'accord.
Oui, comme vous dites.
Mais bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les armes intermédiaires, parce qu'elles sont non létales. Et on gradue, c'est-à-dire qu'on utilise d'abord des gaz lacrymogènes, on utilise le lanceau, après on utilise le lanceur de balles de défense, parce que le flashball n'existe quasiment plus dans les unités en fait de maintien de l'ordre. C'est maintenant le lanceur de balles de défense qui d'ailleurs est moins puissant que le flashball. Mais c'est tout ceci est encore une fois encadré. Il y a pas d'initiative au sein du maintien de l'ordre, soyons très clairs sur
lorsque,
le sujet.
Alors imaginons, on est autour de l'Arc de Triomphe par exemple, ça commence à chauffer très sévèrement, vous avez déjà envoyé des lacrymogènes, il faut passer au stade du dessus. Qui décide qu'on passe au stade du dessus? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là, qui est présent et qui dit maintenant stade suivant, ou est-ce qu'il faut passer un coup de fil à un commandant qui est au-dessus, qui n'est pas sur le terrain? Ça se passe comment?
Il y a une autorité hiérarchique, une autorité civile qui sont présentes au sein même des compagnies et qui coordonne effectivement les actions en lien direct avec notamment les salles de commandement. Et lorsque ce que vous évoquiez comme situation, par exemple à l'Arc de Triomphe, si les grenades lacrymogènes ne suffisent pas, si pour reprendre le terrain, les individus par exemple commencent à jeter des pavés sur les forces de sécurité, effectivement on passera à un autre stade. Et tout ceci se fait de manière intelligente et graduée encore une fois.
Sébastien Rocher, est-ce qu'on est plus armé et plus on a plus tendance, nous, en manifestation en France, à utiliser ce genre d'armes, ou est-ce que au fond on est à peu près au même niveau que nos collègues, on va dire, européens?
Alors oui, d'abord, dans tous les pays de l'Union européenne, c'est l'autorité politique qui décide de l'utilisation de la police et de l'emploi de la force. Alors on ne sait pas forcément pour autant ce que font tous les agents, notamment en France, encore une fois, où ils n'ont pas de numéro d'identification visible d'une taille suffisante en matière de l'ordre. Donc on ne sait pas trop qui fait quoi. Mais l'ordre général, il est donné par l'autorité politique, ça c'est tout à fait exact. Et il y a à Paris deux salles de commandement à la préfecture, et puis ensuite le ministre peut lui-même participer à la coordination dans un certain nombre de cas. Bon, ensuite il y a des instructions qui sont données, puis il y a des outils qui sont mis à disposition, et ce sont des armes. Et ces armes, ce sont des armes effectivement qui ne sont pas non létales, mais qui sont à létalité réduite, c'est-à-dire qu'elles ne tuent pas à tous les coups. Comme on l'a vu par exemple à Sivens, on peut être tué par l'usage d'une grenade qui entre-temps d'ailleurs a été supprimée. Donc il y a des armes qui causent des blessures, qui sont des blessures irréversibles. Donc ce sont quand même des armes. Et c'est une des choses d'ailleurs les plus spectaculaires dans le maintien de l'ordre, c'est le retour du tir sur les manifestants. Le fait que la police tire avec des armes à létalité réduite, certes, mais qu'elle tire sur les manifestants. Et ça, un certain nombre de pays n'en veulent pas. Et ce sont d'ailleurs des pays dans lesquels la police est beaucoup plus appréciée qu'en France, dans lesquels la police est beaucoup plus légitime qu'en France. D'abord, effectivement, la Grande-Bretagne, par exemple, et ensuite l'Allemagne. Donc, il est possible de faire différemment. Ce qu'on fait en France, c'est ce qu'on fait, et c'est pas les policiers qui l'ont choisi, encore une fois, c'est l'autorité politique, hein. Mais on peut faire différemment, et on peut blesser de façon irréversible moins de personnes en maintien de l'ordre.
Stanislas Godon, est-ce que il y a discussion là-dessus? Est-ce que parfois, y compris vous, chez les policiers, vous vous dites ce genre d'arme, y compris moi, je sais parce que je l'utilise, qu'elle peut être trop dangereuse, donc ne le faisons pas?
Non, parce qu'elle est utilisée toujours de manière proportionnée par rapport aux attaques qu'ils subissent, mes collègues. Quand on leur jette des pavés ou des boules de pétanque à la figure, eh ben effectivement, ils ripostent, bien sûr. Mais ça, c'est une riposte proportionnée. On ne tire pas sur les manifestants parce qu'ils sont de manière pacifique devant nous.
Non, c'est
ce qui était un peu sous-entendu. Donc c'est vrai que mes collègues là, ils comprennent pas, parce que on les accuse de tous les maux, alors que je le rappelle encore une fois. c'est eux qui en prennent plein la figure depuis un mois et demi notamment. On a assisté à des scènes surréalistes. Rappelons qu'on a des équipages qui ont été attaqués, où on a d'ailleurs, subtilisé l'arme qui est d'ailleurs un HKG-36, qui est juste un pistolet mitrailleur qui est utilisé dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'est vous dire à quel point on a affaire quand même à des individus qui sont ultra déterminés, très organisés et qui connaissent très très bien les forces de sécurité et le maintien de l'ordre également.
Parce que on faisait la comparaison avec les voisins européens, mais les voisins européens ont aussi des manifestations, les Allemands moins, et encore qu'à une période, les Anglais, y compris à la période du bilinguisme, ont connu aussi des manifestations qui pouvaient être des manifestations extrêmement violentes.
Alors, pas des manifestations revendicatives, vous le disiez très justement, des manifestations faites dans les enceintes sportives, le hooliganisme, c'est quelque chose qui est un peu particulier, le hooliganisme. C'est pas tout à fait la même chose que lorsque vous déambulez dans des rues et que vous décidez, au détour, un angle de rue, de vous en prendre directement aux forces de sécurité. Ça, on l'a pas trop vu en Angleterre quand même. C'est pour ça que cet exemple-là, il est peut-être pas le meilleur. Par contre, on a assisté à des maintiens d'ordre extrêmement compliqués en Allemagne, notamment avec des altermondialistes. On a vu des scènes aussi extrêmement violentes. Mais là encore, la riposte de la police allemande a été tout aussi sévère. Vous savez, on fait pas du maintien d'ordre avec des pâquerettes, j'ai envie de dire.
Tiens, et pour aller dans le sens que vous disiez, il y a aussi des gens qui téléphonent et qui nous écrivent sur franceinter.fr pour vous dire par exemple bravo aux policiers qui arrivent à résister, à garder leur calme face aux manifestants qui les insultent, qui les bombardent d'objets. Je trouve que la perception qu'on a de la situation est injuste pour la police. C'est ce que nous dit cet internaute sur franceinter.fr. Donc voyez qu'il y en a. Je voudrais qu'on écoute Alain. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Alain, allez-y.
Bah écoutez, moi je voulais souligner une certaine différence entre la réaction qu'on constate lorsque par exemple les forces de police nous débarrassent d'un terroriste. Tout le monde applaudit et je pense c'est effectivement un travail difficile de courir après un terroriste armé. Et lorsqu'on nous montre des reportages où les forces de l'ordre utilisent des gaz lacrymogènes, alors ce sont évidemment les mêmes forces de l'ordre. Donc j'ai l'impression que les gens réagissent en fonction un peu de l'humeur du moment, du reportage, du dernier reportage passé à la télévision, sans vraiment prendre conscience de la difficulté de tout ça. Et avec pour certains une violence verbale ou même physique qui est assez étonnante, qu'on constatait pas dans mes jeunes années, si vous voulez.
Merci.
Et puis j'avais un message, pardonnez-moi, c'était de moi je suis éleveur au vin, j'ai l'impression que les gens se comportent de façon moutonnière, voilà, en fonction de ce que les médias rapportent. Et parfois avec donc des réactions qui sont tout à fait désolantes.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Alain. Stanislas Godon, allez-y.
Oui, juste pour réagir par rapport à ce que disait cet auditeur. Oui, vous savez, nous sommes au mois de janvier, nous sommes début janvier.
Bien sûr,
il y a 4 ans, tout le monde s'en rappelle, nous étions frappés par des attentats. Les policiers, depuis 4 ans, ils ont répondu présents sur tous les fronts. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration, la sécurisation de tous les lieux, la sécurisation de toutes les manifestations, les grandes manifestations sportives, notamment comme l'Euro 2016 qui se sont très bien passées, notamment avec ces fan zones surréalistes comme par exemple sur le Champ de Mars à Paris où il y avait plus de 100 000 personnes à l'intérieur. Et puis ils ont répondu présents aussi pendant les manifestations très violentes comme la loi travail notamment.
Sébastien Rocher, notre relation aux policiers, nous en France, a l'air effectivement assez cyclotimique. Est-ce que la période dont parlait Stanislas Godon, c'est-à-dire la période terroriste où effectivement il y a eu une relation aux policiers qui était très différente, est-ce que c'était au fond une parenthèse et est-ce qu'on a toujours eu une relation difficile ou est-ce que cette relation-là est en train de se dégrader très sérieusement ?
Non, je pense pas qu'elle se dégrade, mais effectivement, en France, la relation est assez médiocre parce que le service policier est très moyen. Comparativement aux 27 pays de l'Union européenne, la France se situe toujours dans le tiers inférieur par les enquêtes de satisfaction qu'on a pu faire, commanditées par différents organismes de recherche au niveau européen. Donc la police française n'est pas habituée à rendre un service qui est estimé par celui qu'il reçoit comme étant de la plus haute qualité. Et donc l'idée, effectivement, c'est de le faire progresser. Si on part du principe que la police française est parfaite aujourd'hui, ben c'est pas la peine de faire une émission. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Donc il faut regarder ce qui ne va pas pour pouvoir améliorer ce qui ne va pas. C'est pas en cachant ce qui ne va pas qu'on va pouvoir améliorer les choses. Et c'est la même chose dans la dynamique, je crois, à l'intérieur des manifestations. Il y a un certain nombre de cas où les policiers sont agressés, par exemple, où ils vont riposter, puis il y a un certain nombre de cas où ils ont tiré au lanceur de balles de défense dans la tête des journalistes ou même d'un personnel soignant. Bon, tout ça, Ce sont des choses qui ne vont pas. La riposte, ça va très bien, et c'est d'ailleurs bien codifié. Ça, d'autres actes ne vont pas. Donc c'est cette approche qu'il faut, à mon avis, avoir, rechercher ce qui est satisfaisant et ce qui ne l'est pas. C'est ce que font toutes les entreprises, hein, lorsqu'elles font du benchmark. Elles regardent comment d'autres font mieux pour essayer de s'en inspirer. Ça, c'est une ouverture d'esprit que j'aimerais voir progresser au ministère de l'Intérieur, qui malheureusement n'est pas vraiment d'actualité.
Stanislas Godon, allons-y. Si vous deviez pointer une chose qui ne va pas, qui effectivement ne fonctionne pas dans ce cadre là de manifestation, vous vous diriez, ouais, là on doit pouvoir faire mieux, vous diriez quoi?
Alors pouvoir faire mieux, c'est d'abord donner les outils, je dirais, pour que nos collègues travaillent sereinement.
Hein. Vous êtes voilà. Incorrigible, c'est pas votre faute.
Mais non, mais parce que c'est le cas, c'est le cas. Si on donne à la police les moyens de travailler sereinement, si on donne tout l'arsenal juridique, notamment pour qu'ils puissent neutraliser d'ailleurs ces individus, parce que c'est ça en fait le fond du problème. Lorsqu'on écartera tous les casseurs, et là aussi il faudra se poser quand même une grosse question, c'est la réponse pénale. Parce que quand des individus jettent des pavés à la tête des policiers, qu'on leur signifie un rappel à la loi, qu'est-ce qui se passe la semaine d'après? Eh ben, ils sont à l'acte 7 ou 8 et ils sont de nouveau face aux forces de l'ordre. Et là, on est dans un système qui, en fait, ne trouve pas de solution, puisque les personnes sont de nouveau présentes et de nouveau créent le chaos.
On parlait de la relation entre la police et nous. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, Stanislas Godon, peut laisser des séquelles durables entre la police et la population?
Alors attention, parce qu'à chaque fois...
Ou l'inverse.
Non, mais à chaque fois qu'il y a en fait des événements, on dit il y a un problème de relation entre la police et la population. Nous, on dit non. D'ailleurs, il y a beaucoup de sondages qui montrent que en fait la population apprécie sa police, et d'ailleurs dans beaucoup de domaines, pas seulement que dans la lutte contre le terrorisme. Mais par contre, il y a un problème effectivement avec une certaine frange de la population, et notamment une minorité, que ce soit dans les quartiers sensibles, parce qu'effectivement, lorsqu'on lutte contre le trafic de stupéfiants, on dérange, ça c'est bien connu, et ça a donné lieu à des exactions comme par exemple à Viry-Châtillon où on a tenté de brûler des policiers. Et puis, dans le maintien de l'ordre, lorsque vous avez affaire à des ultras ou à des personnes radicalisées, même au sein des Gilets jaunes, parce qu'on en a, tout le monde en a, on a appris à les connaître, ces individus qui décident même parfois de menacer de mort, d'ailleurs des Gilets jaunes eux-mêmes. Eux, par contre, il faudra un jour que vraiment on arrive à les neutraliser, parce que sinon ça va devenir vite compliqué.
Et en même temps, il y a une réconciliation à avoir. Je peux pas prendre Ella, mais je vais donner votre question à l'antenne. Vous dites, j'aimerais comprendre pourquoi des lycéens, notamment, qui manifestent juste ou font un petit blocus, se font gazer, matraquer, grenades, tirs au flashball, etc. Alors que la manifestation est terminée depuis une heure. Ça, c'est un témoignage qui vient d'Ella. Et puis, à côté, ce mail sur franceinter.fr qui dit, je ne pensais pas un jour prendre la défense de la police, mais qui va devoir devenir policier un jour? Les enseignants, les pompiers, les policiers ne sont plus respectés. Il faut remettre le service public au centre de la République. À un moment, comment on fait? Et c'est fou parce qu'on a posé cette question la dernière fois qu'on a parlé police au téléphone sonne. Comment on fait pour réconcilier Ella et cette personne qui nous écrit sur franceinter.fr? Stanislas Godon, il y a bien quelque chose qui ne va pas pour qu'on puisse avoir ces deux témoignages qui sont diamétralement opposés.
Alors moi, j'aimerais bien savoir comment s'est passé notamment ce maintien d'ordre, parce que la dernière fois, on a vu ces images avec des lycéens qui avaient notamment les mains sur la tête. Et puis nous, on s'est un peu renseigné quand même. On a eu affaire à des jeunes qui étaient quand même ultra déterminés, qui n'ont pas hésité à jeter des bonbonnes de gaz qui étaient quand même ouvertes sur des feux de barricade, ce qui était extrêmement dangereux. Et lorsqu'ils ont été interpellés, il y avait seulement une quinzaine de collègues.
Mais la question, c'était comment on réconcilie si la seule réponse, c'est mais là, c'est pas de notre faute, c'est celle des manifestants. Comment on réconcilie, comment on peut dire à Ella si la police fait son travail? Comment on réconcilie Ella avec cette personne qui nous a écrit sur franceinter.fr?
Pour que ça se passe mieux, je crois qu'il faut respecter déjà la police, respecter son travail et essayer de ne pas l'attaquer. Et là, déjà, ce sera une grande avancée.
Et vous l'avez entendu, on est déjà en retard. Évidemment, merci à tous, comme d'habitude, pour vos nombreux appels et portez-vous bien.